Et ciao tout le monde.
Ciao.
Le premier épisode sur le Vietnam vous a plu, mais vous en voulez encore, ça tombe bien, on vous propose tout de suite un deuxième. Et on commence par un sujet toujours important pour les backpackers comme nous, les transports.
Ouais, donc le premier constat, c'est le nombre ahurissant de scooters qu'il y a. C'est un flow, mais vraiment ininterrompu. Tout le monde a un scooter au Vietnam. Ça va, vraiment, des petites filles de 12 ans à des familles nombreuses où ils sont 5 dessus. Donc absolument tout le monde. Et aussi, ils transportent tout et n'importe quoi dessus. Donc, des lave-vaisselles, des lave-linges.
On avait passé un scooter qui avait, genre, je pense, un bon millier de fleurs.
Ah ouais, un bouquet, mais plus gros. On n'a jamais vu.
Donc, conséquence directe, ils ont appris à optimiser la place sur la route en scooter. Donc, il faut imaginer un peu un peloton du Tour de France qui passe. Bah, en fait, les hordes de scooters dans les rues, notamment des villes telles que Ho Chi Minh, c'est ça. Voilà, vous avez des pelotons de Tour de France qui passent en scooter non-stop, les mecs à 10 cm les uns des autres.
Et bien sûr, comme dans tous ces pays d'Asie, les piétons n'ont jamais la priorité. Or, vous savez qu'on adore se balader à pied avec Charlie. Et du coup, pour traverser les rues, surtout à Ho Chi Minh. À Ho Chi Minh, je pense qu'on a mis 20 minutes à traverser une route, tellement, mais c'est... Il s'arrête jamais, jamais, jamais. Donc voilà, faut accepter l'idée d'être frôlé en avant, en arrière, et qu'en gros, ils s'arrêtent à 1 cm de toi parce que juste, ils n'ont pas le choix. Mais bon, ils ne sont jamais agressifs.
Non, c'est jamais.
C'est l'avantage.
Bon, du coup, quand on a vu ça, on était un peu embêtés. On s'est dit, est-ce que vraiment c'est raisonnable de se louer un scooter dans ces conditions-là, alors que c'est quelque chose qu'on adore faire. Mais clairement, on n'était pas trop rassurés par ce qu'on voyait.
Ouais, en même temps, la conduite est assez chaotique. C'est un peu le moins qu'on puisse dire. Et c'est chacun pour soi.
Voilà. Mais donc curieusement, une fois qu'on avait pris l'habitude, j'ai trouvé ça moins stressant que de faire du scooter à Paris. Et oui, non, je me défends, je vois deux raisons à ça. C'est que, un, ici, ils ont la culture du scooter, c'est un euphémisme, vu qu'il y a 95% des gens qui sont en scooter. Donc ils ont l'habitude, voire ils ont carrément des voies réservées pour les scooters, comme nous les vélos en ville. D'ailleurs, au début, je pensais que c'était la bande d'arrêt d'urgence et que tout le monde roulait sur la bande d'arrêt d'urgence sur les routes, l'air de rien.
Non,
et en fait, non, il y a des moments,
il y a des
pictogrammes scooters, c'est vraiment les voies pour scooters. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que comme c'est assez chaotique, il n'y a pas le même respect du code de la route que chez nous, loin de là.
Il n'y a pas de priorité en fait.
Voilà, la priorité, c'est.
Même les gens ne regardent pas.
Non.
Ils arrivent sur une route et ils ne regardent pas.
Mais du coup, la conséquence de ça, c'est qu'en fait, ils roulent beaucoup moins vite que chez nous. La vitesse moyenne, je pense, sur les grands axes, c'est du 40 km/h grand max pour tout le monde. Parce que vu que tout peut arriver à chaque instant...
Il faut pouvoir réagir.
Voilà, et donc en fait, même les voitures et les bus en ligne droite sur des 4 voies toutes neuves, où vraiment là, on a envie d'aller à fond, ils dépassent jamais les 60 km/h.
Et encore, à 60 km/h, on va vite, enfin on va plus vite que tout le monde. Parce qu'il faut savoir que l'ordre des vitesses est inversé par rapport à chez nous.
Ouais.
C'est les scooters qui sont les moins rapides, puis les voitures, puis les bus.
Voilà, ce qu'on peut résumer à c'est la loi du plus gros sur la route. Voilà. Donc en fait, le bus lancé à 60 km/h en pleine balle, c'est le plus rapide. Donc voilà, on aurait bien aimé prendre le train aussi au Vietnam, une fois au moins dans les 6 semaines qu'on a passé dans le pays. Parce que c'est toujours des moments assez sympas, les trains dans ces pays-là.
Les paysages sont sympas, Bully n'a pas mal au cœur.
pas tout le temps, en tout cas, pas dans tous les trains. Mais bon, on a dû laisser tomber parce que c'était impossible, ils étaient tous archi, archi complets. Encore une fois, on est en juillet.
Très cher aussi.
Non, il
n'y a même pas.
Ouais. Impossible. Ouais. C'était genre, c'est les vacances, en fait, au Vietnam, hein, comme on l'a déjà dit en juillet. Et puis, contrairement à la SNCF, ils n'ajustent pas les prix en fonction de la demande, avec du coup la possibilité de se procurer des billets très chers au dernier moment. C'est juste complet, c'était complet depuis des jours, voire des semaines.
Bon, c'est pas bien grave, du coup, on s'est juste contenté des bus couchettes longue distance pour les moyens déplacements de prédilection pour nous. Au total, on en a fait 12, dont 2 on a fait de nuit.
De nuit, parce qu'en fait, les bus couchettes ne servent pas que pour la nuit là-bas.
C'est ça, ils servent tout le temps. Et l'autre point hyper positif, c'est qu'ils sont parfaitement à l'heure. Mais genre, parfaitement. On n'a jamais eu de retard dans tous les bus qu'on a pris. Donc ça, c'est vraiment génial. L'autre point, c'est que par rapport à un bus normal en France, le confort est quand même supérieur. On a en fait des sièges qui s'inclinent et on peut limite être allongé, pas totalement.
Enfin, qui s'inclinent en fait. Les pieds sont à l'horizontale.
Oui, les pieds sont allongés à l'horizontale et le dossier s'allonge. Donc en gros, on peut être allongé. Après, c'est par rapport à la... à la hauteur des Vietnamiens, donc il faut savoir que
nous,
nos
ça passe
pieds,
tout juste.
ouais, tout juste, hein, tout juste. On n'est pas quand même à 100% confort,
C'est
mais
pas aussi confortable qu'un king size dans un hôtel 4 étoiles, oui,
voilà.
On a compris. Mais ça reste, enfin voilà, on est quand même en position quasiment allongée, et pour faire 20 heures de bus, ça n'a rien à voir avec prendre des
oui,
bus
oui,
normaux.
Oui, c'est pas mal. L'autre truc, c'est qu'ils veulent faire un peu d'hygiène. Donc, en gros, comme dans tous les pays asiatiques, quand on rentre chez soi, il faut enlever ses tongs, enfin ses chaussures. Donc là, quand on rentre dans le bus, pareil, c'est la même chose, il faut enlever les chaussures qu'on met dans un sac plastique. Et ce qui est très drôle, c'est que dans les arrêts, quand on s'arrête, ils remettent pas leurs chaussures. En fait, en sortant du bus, tous les restaurants, enfin, ils nous donnent des tongs. Donc, je vous raconte pas l'hygiène, hein. On partage tous les mêmes tongs.
Oui, donc,
mais,
bah, c'est une
mais ça,
certaine
c'est
forme.
drôle.
C'est pas l'hygiène, en fait, c'est de la propreté. En fait, voilà, ils ont,
ouais.
y a,
Ah, bah,
au
clairement, c'est
Vietnam,
pas
ils ont pas de
l'hygiène.
notion. Voilà, il y a pas d'hygiène, il y a une notion de propreté. Donc, on enlève les chaussures chez soi et aussi, du coup, dans le bus. Et voilà, c'est très rigolo, ces bacs à tongs où on prend des tongs comme ça pour aller aux toilettes, pour aller manger, puis hop, on remonte dans le bus, on laisse les tongs sur place.
Ouais, c'est sympa.
Bref, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on n'a pas ça en France, quand même, ces bus-là, parce que vraiment, pour
Ouais, je
faire de la
pense
longue distance.
des histoires de sécurité. Parce que je pense que si on a un accident, on n'est pas attaché, bien sûr. Je pense que tout le monde vole et pas au
Oui,
bon
ça
endroit.
arrive parfois.
Hein.
Bref. Mais bon, pour nous, le plus gros défaut, en tout cas moi, à mes yeux, c'est ça, dans ces modes de déplacement, ça restait ouais, les coups de klaxon.
Ouais,
Parce que
qui
bah,
sont
donc,
très puissants.
au Vietnam, tout le monde klaxonne, tout le temps, et bah, les bus compris, et vraiment, alors, du klaxon, enfin, mais ils y vont pas avec le dos de la cuillère, quoi. C'est vraiment genre, c'est des bons coups de klaxon. Ça dépend des chauffeurs, du style
Ouais.
de conduite. Il y a des chauffeurs qui l'utilisent plus ou moins, mais c'est le truc, enfin, je pense qu'ils doivent être sourds, les chauffeurs, tellement genre, c'est fort, et même nous, avec des boules caisses. Ça réveillait quoi, ce qui est vraiment dommage parce que sinon on est très bien installé. Bon, l'autre truc un peu relou parfois, c'est que personne parle un mot d'anglais dans ces endroits-là, vraiment. Le Vietnam, il parle très peu anglais et du coup, quand on
Et
se retrouve dans
donc,
ce
les
bus.
pauses, on ne sait jamais si c'est des pauses de 10 minutes ou
Voilà.
si c'est des pauses de 40 minutes pour déjeuner. Donc,
Donc, on
c'est...
s'était commandé des faux une fois, puis on se disait, tiens, ça va être la pause de 30 minutes, et puis en fait, au bout de 5 minutes, tout le monde remonte, on a dû finir notre faux en nous
Ouais,
deux.
hyper
Oui.
vite. Ouais. Donc voilà, ici, comme dans les autres pays qu'on a visités en Asie, on n'est quand même jamais 100% serein sur la route et avec leur façon de conduire. Mais le Vietnam est loin d'être le pire. Je pense que le pire qu'on ait fait, c'est l'Inde.
Oui, ça clairement le bus en Inde, c'est notre histoire. Mais bon, il y a quand même toujours une petite part d'incertitude et de danger. Et donc, bah, une petite prière avant de monter dans le bus, ça mange pas de pain. Et justement, puisqu'on parle de prière, la transition est parfaite
Ah,
pour évoquer la religion
quelle
au
belle
Vietnam,
transition!
qui n'est pas évidente à cerner au début, comme ça pouvait l'être dans les autres pays.
En effet, contrairement aux autres pays asiatiques, les Vietnamiens sont pas très pratiquants. Enfin, c'est l'impression du moins qu'ils nous ont donnée.
Mais impression confirmée par les petites recherches Wikipédia, hein,
Ok, merci
ils
Charlie,
sont beaucoup
prof
moins
Charlie.
pratiquants que les autres pays.
Et aussi, on a beaucoup, beaucoup moins de temples et de processions religieuses qu'ailleurs, que dans tous les pays qu'on a vus.
Donc pour les croyants, c'est-à-dire les 20 à 30% de la population qui sont croyants, la religion qui domine apparemment, c'est quelque chose qui s'appelle le Tam Jiao, qui est une fusion de croyances chinoises. Donc les Chinois,
Attention, pas de cuisine, pas fusion cuisine, mais fusion
Voilà, il n'y a pas que la
de
nourriture qui
religion.
est fusion ici, c'est aussi la religion. Donc c'est les croyances chinoises, c'est un peu le triptyque confucianisme, taoïsme et bouddhisme. Donc déjà, ouais, il y a le melting pot de tout ça. Mais ils mélangent ça aussi à des rites traditionnels anciens, ce qu'on appelle les rites animistes. Et du coup, ça fait un joyeux petit cocktail maison.
Mélange.
Il y a un peu de christianisme également, héritage de la période coloniale, de la grande France, Indochine française. Et il y a un troisième culte non négligeable, je voulais absolument qu'on parle, qui est spécifique au Vietnam, qui s'appelle le caodaïsme. Et
Ouais,
donc
c'est très
celui-là, voilà,
bizarre.
si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, c'est 100% local, c'est une religion créée au début du XXe siècle, dans la région donc, de Ho Chi Minh, anciennement Saigon, le sud du Vietnam. Et c'est une religion qui emprunte un peu à toutes les grandes religions, et qui sanctifie des intellectuels européens, et notamment Victor Hugo.
Ouf.
Parce que bah, c'était encore la région, c'était sous occupation française encore à l'époque, et du coup il y avait bah, Victor Hugo, c'était un peu le hit du moment, donc avec des bouquins de Victor Hugo qui devaient traîner partout dans les classes de français et au sein des sociétés francophones. Et en fait, du coup, on a appris que Victor Hugo était lui-même un adepte de spiritisme, qui est la technique pour entrer en contact avec les défunts, et en l'occurrence pour Victor Hugo avec sa fille défunte. Et du coup, tout ça a fait que voilà, ils se sont pris de passion pour Victor Hugo et qu'ils l'ont mis un peu au centre, en tout cas un de leurs prophètes de cette nouvelle religion créée. Et du coup, ça donne des temples avec des fresques assez improbables. Alors, on n'est pas allé les voir nous-mêmes, c'était
Non.
un peu trop loin, mais voilà, on promet, il y a ça, donc il y a des temples avec des fresques, on a Jésus, Victor Hugo, Lao Tzu et un dragon sur la même fresque. Voilà, ça fait très folklorique, mais
Tout
donc
va
voilà,
bien.
y a quand même 3 à 5 millions d'adeptes apparemment de cette religion dans le coin. C'est quand même pas rien.
Ouais. Bon, bah, merci Charlie, prof Charlie, pour cette belle histoire. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu.
J'espère également. On vous retrouve pour le troisième sur le
Et
Vietnam.
oui, encore un
Prochainement.
troisième. On n'a jamais fini.
Beaucoup de choses à dire sur le Vietnam.
Tam
Tam Viet, tout le monde.